Vous écoutez France Musique.
Bonjour, c'est en effet le matin des musiciens, le dernier de cette saison. Le dernier en ce qui me concerne, puisque évidemment demain vous retrouverez Jean-Pierre Derrien pour la dernière de la saison 2013-2014. Et j'ai eu envie d'avoir mes deux larrons favoris. À ma gauche, Vincent Varnier, qui est organiste, chacun sait, titulaire de l'église Saint-Étienne du Mont à Paris, professeur agrégé de musique avec qui on a fait des émissions sur le baccalauréat musique, puisqu'il enseigne à ses élèves qui passent le bac spécialisé musique. Et puis à ma droite, Richard Martet, qui est le patron d'Opéra Magazine, avec qui j'ai fait aussi cette année une série d'émissions qui, moi, m'ont enchanté sur des choses que je ne connaissais pas très bien, avant de les faire avec vous, ces émissions, Richard. Et puis tous les trois, on a aussi fait au moins une émission. Je ne sais plus si on en a fait deux, tous les
une
trois.
Émission,
on a fait une émission sur le Miserere
du
Trouvert, la paraphrase de Franz Liszt. Et je trouvais que pour la dernière, nous pouvions peut-être faire une émission sur les œuvres de jeunesse de Max Reger. Non, je plaisante. On ne va pas faire ça. On va faire quelque chose d'assez... pas du tout thématique. Je vous ai proposé de venir chacun avec des petites pépites, des choses que vous aimez, des choses que vous détestez, des choses drôles, des choses émouvantes. Et puis moi-même, eh bien, j'apporterai, sortant de mon escarcelle, quelques petites choses aussi. On va commencer par un hommage à une dame que j'aimais beaucoup, que j'ai eu le plaisir de connaître un petit peu. Je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée. Je me souviens d'un dîner au restaurant absolument hilarant à son côté, où elle me racontait comment elle avait enregistré la publicité pour la vache qui rit. Vous savez, le fromage fondu. Je parle de Micheline Dax. Et effectivement, une maison de publicité, ou de publicitaire plus exactement, lui avait demandé de faire le « meuh » de la vache. Et je me souviens que je me suis inondé ce soir-là. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça m'est arrivé une autre fois avec Josette Sanson-François, qui me racontait des choses absolument extraordinaires, parce qu'elle était drôlissime, elle n'est plus avec nous aussi. Et Micheline Dax, évidemment, nous a quittés il y a quelques semaines, ce qui m'a attristé. On a toujours voulu voir dans cette dame la fantaisiste, ce qu'elle était, parce qu'elle était, comme je viens de le dire, assez drôle dans la vie aussi. Mais au fond, elle avait voulu commencer sa carrière en jouant Bérénice. Et puis, elle était chanteuse. C'était une excellente soprano d'opérette, mais elle aurait pu sûrement faire autre chose. Voix très pure, très juste. Elle a chanté, je vous vois acquiescer, Richard Martet, vous êtes d'accord?
Oui, elle a fait La vie parisienne.
Bien sûr. C'est,
elle faisait ça extrêmement bien. Et elle était justement la bonne frontière, dans Offenbach, c'est important, entre la comédienne et la chanteuse. C'est-à-dire, ce n'est pas une comédienne qui chantait, exactement les deux, ni une chanteuse qui jouait la comédie.
Exactement.
Elle était au point d'équilibre parfait.
Et elle était également siffleuse, ce que chacun sait parce qu'on l'a beaucoup vu à la télévision siffler. Et je me suis dit que l'entendre dans cette très très jolie chanson Syracuse, la chanson d'Henri Salvador, eh bien, on pourrait se souvenir d'elle avec un doux sourire.
Thank you.
Micheline Dax, notre regrettée Micheline Dax, qui sifflait Syracuse, cette fameuse chanson. Et Richard faisait remarquer, avec raison, qu'elle siffle très juste, mais elle chantait très juste aussi.
Absolument.
Et très bien, assez tard dans sa carrière.
Oui, alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt des souvenirs des années 60 par là. Hein, donc, je ne sais pas si après...
Il y a des documents sur INA.fr, qui est le site d'archives, où il me semble qu'on la voit encore, à la fin des années 80, chanter extrêmement bien. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil à cette grande dame, artiste de variété dans le meilleur sens du terme, au sens premier du terme, je dirais, c'est-à-dire, comme vous le disiez, capable de faire plein de choses. À vous, Vincent Varnier, vous venez avec un morceau d'orgue qui est de la musique italienne.
Oui, c'est un petit clin d'œil, un double clin d'œil à Richard, évidemment, qui va nous parler de Bel Canto très vite. Et puis à vous aussi, qui aimez un petit peu cette histoire parallèle de l'orgue. Hein.
Oh oui.
Et surtout, c'est une découverte qui est parue cette année, consacrée à un compositeur italien, Polibio Fumagalli, 1830-1900, vous m'en direz tant. Plus de 300 pièces pour orgue, professeur au conservatoire de Milan. Et ce monsieur a eu deux frères compositeurs qui, eux aussi, ont énormément écrit. Évidemment, on redécouvre complètement ce
Vous ne connaissez
ce
pas
musicien.
Ce nom, peut-être même avant l'apparition du disque. Pardonnez-moi de vous demander ça, mais...
J'en avais entendu parler,
quand
mais
même.
Je ne connaissais pas cette
Fumagalli.
Musique. Fumagalli. C'est un peu un Lefebvre Velli italien.
Ça fait un peu volcan japonais, Fumagalli, non
C'est enfin, vrai, non c'est vrai, c'est vrai.
Enfin bon.
Mais vous verrez, c'est absolument dans l'esprit de cet orgue mi-religieux, mi-profane... Volontiers décadent, toujours avec un peu de recul, et puis surtout lié à la facture instrumentale du 19e siècle, où tous ces instruments, notamment ici celui de Sant'Agostino à Trévise, qui est un orgue construit par les frères Serassi, et vous imaginez bien l'arsenal d'accessoires
C'est-à-dire
plus ou moins crapuleux.
Les grosses caisses, les carillons, les choses comme ça.
Les caisses claires et les cloches, etc., qui viennent, je dirais, iriser ces marches, ces pièces de circonstances qui n'ont rien de religieux une fois de plus. L'opéra comique, le bel canto, une bonne dose de mauvais goût s'y invite et surtout le génie de l'organiste du lieu de Trévise, Giovanni Feltrin, qui met tout son chic et son inspiration sur cet orgue splendide d'ailleurs pour servir cette musique très colorée et volontiers drôle.
Voilà, de la musique qui rend la messe un peu moins ennuyeuse. Et c'est surtout le témoin aussi d'une pratique d'église, même en France. Hein, on en a parlé souvent, Vincent Warnier, au cours de nos émissions cette année, mais un organisme comme César Franck était considéré comme un été noir. On lui demandait, enfin, on évitait, on essayait d'y vivre, enfin, on trouvait que ce qu'il faisait était un peu austère et un peu ennuyeux.
Oui, et puis surtout, et même sa sens, vous savez, le clergé de la Madeleine fréquentait l'Opéra Comique et il convenait que monsieur l'organiste, maître Saint-Saëns, respectât ses goûts et leurs goûts. Donc, effectivement, toute cette école d'orgue, on a ça en Italie aussi d'ailleurs, je dirais sérieux, qui revient au chant grégorien, qui reprend les formes classiques, comme effectivement Franck Saint-Saëns, Boilly et tous les successeurs, avaient peu de succès. Et en Italie, ben, vous avez entendu ça. En même temps, Fumagalli a quand même formé des organistes concertistes comme Marco Enrico Bossi, par exemple,
ah oui,
qui alors, pour le coup, ont écrit une musique, entre guillemets, beaucoup plus sérieuse. Mais
de
c'est intéressant.
De toute façon, l'histoire de la musique à l'église, c'est ça. C'est des vagues. C'est des vagues. On a des réformes, des contre-réformes. Quand la musique va trop loin et devient trop décadente, le clergé met le holà. Et puis ensuite, quand ça redevient à nouveau trop ennuyeux, eh bien, on essaie un petit peu d'importer du profane.
Et c'est la liturgie était un spectacle. Hein, l'opéra s'invitait à l'église, la liturgie était somptueuse et on déployait tous les fastes possibles, et y compris aller dans le sens du goût du public pour l'attirer et magnifier le lieu de culte.
Alors, on ne va pas faire un grand pas, puisqu'on va rester dans cet esprit opératique avec vous, Richard Marté, avec quelque chose que vous nous avez apporté, extrait de Lucia di Lammermoor, une interprétation particulière, ou un moment particulier.
Absolument.
Expliquez-nous.
C'est donc un extrait de la deuxième intégrale d'Eka de Lucia di Lammermoor avec John Sutherland, celle de 1971, avec Luciano Pavarotti et Cheryl Mills. Et c'est le duo, le grand duo soprano-baryton au premier acte. En fait, c'est lié à une anecdote assez amusante que m'avait raconté Cheryl Mills un jour quand je l'avais rencontré au Canada. Et donc nous sommes à Londres et le matin de l'enregistrement, Richard Bonynge, époux de John Sutherland qui dirigeait le disque, appelle Cheryl Mills et lui dit « Alors je ne peux pas imiter l'accent de Cheryl Mills américain imitant l'accent australien de Richard Bonynge. » Mais bon, ça je m'en dispenserai, mais je raconte l'anecdote. Et donc Bonynge dit à Mills « Bon, ben écoute Cheryl, j'ai trouvé un manuscrit de Lucia où le grand duo entre Lucia et Enrico est monté d'un ton, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en sol majeur, il est en la majeur. Est-ce que tu serais d'accord pour le tenter ?» Mintz dit « Ok ». Il raccroche, puis il commence à réfléchir. Monté d'un ton avec le suraigu de rigueur, à toujours avec John Sutherland, lui, ça lui fait un la aigu, c'est très haut pour un baryton au lieu d'un sol,
oui,
ça
oui.
passe. Mais il commence à réfléchir, ça veut dire que pour John Sutherland, c'est plus un contre-ré, mais un contre-mi naturel. Et comme il me dit, John, tout le monde le savait, le contre-mi naturel, c'était pas sa note favorite. Autant le mi bémol, elle adorait, elle en a mis
et
partout.
Et ça se joue à demi-ton à
ça
ces hauteurs-là.
Ça se joue à demi-ton à ces hauteurs-là. Autant le mi naturel, commence à me raconter, je pars à l'enregistrement. Et là, ça a été quand même assez épique parce qu'il a fallu cinq prises. Ils ont repris à chaque fois parce qu'elle n'arrivait pas à le faire.
Aha.
Pourtant, 71, c'était son zénith, mais elle butait sur ce contre-mi naturel. Et finalement, elle y est arrivée. Elle ne pouvait pas dire non à Bonynge. Vous savez, c'est l'histoire. C'est Galatée et Pygmalion. Elle lui devait tout.
Oui.
Son mari lui demandait ça. Elle a rarement dit non à Bonynge, John Sutherland. Elle était toujours d'accord. Oui, je vais le faire. Elle a dit non à quelques trucs. Et donc là, elle est allée jusqu'au bout. Vous allez voir, elle le fait, le contre-mi naturel. Et le résultat est absolument impressionnant.
Sol, hey, 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 sol, hey
Je comprends.
Ah oui, ça déménage.
Hein. On sent qu'elle n'a pas, pas le fa, quoi. Hein, contre
elle
mi.
Elle n'avait pas le fa, et quand elle chantait voilà. La Reine de la Nuit, les rares fois où elle l'a fait, elle était obligée de transposer d'un ton, puisqu'elle ne pouvait pas faire un contre-fa. À Londres, au Covent Garden de Londres, avec l'Empereur dans la fosse, elle faisait un mi bémol.
Oui, oui, oui.
Elle faisait des mi bémols et pas des fa.
Et donc, ce serait la tonalité originale.
Ça serait la tonalité.
De l'air, en fait,
absolument.
De cette scène.
Simplement, au XIXe siècle, à l'époque de Donizetti, il n'imaginait pas qu'on ferait des suraigus à la fin. Ils ne sont pas écrits. Hein. On en revient toujours à cet éternel débat. On avait fait l'émission sur le contre-utre, nous, ensemble.
Ah, oui.
De ces suraigus ajoutés par les chanteurs aux grandes dames de chefs d'orchestre comme Riccardo Muti, qui ne supportent pas ça. Que ça arrive à la fin, cette espèce de cri. Mais vous imaginez, s'il l'avait fait dans une salle, il ne pouvait pas. Alors là, on n'aurait jamais couru le risque de faire un contre-mi naturel dans salle, dans un théâtre. Elle ne l'a jamais fait, d'ailleurs. Mais vous imaginez le délire que c'est.
Mais alors, à l'inverse, quand les chanteurs essayent de respecter ce qui est écrit dans la partition, très souvent, le public siffle. Quoi.
Bah, évidemment. Évidemment.
Le public d'opéra. Bon. On va pas, hein, on va,
ouais, voilà. Mais ce côté cirque, c'est bien, Renaud.
Bah, moi, il y a le disque et il y a le spectacle et il y a l'enregistrement. Je pense qu'effectivement, c'est comme les ornements. Hein, dans lorsqu'il y a ça, dans certains enregistrements d'opéra de Mozart, on entend les ornements sur l'air de Chérubin et qu'on les entend et qu'on les réentend, on en a un petit peu assez. L'ornement, c'est aussi quelque chose qui se fait de chic et qui n'est pas forcément destiné à être réécouté de la même façon. Enfin bon, on ne va pas revenir sur ces sujets aujourd'hui. On s'amuse un petit peu pour cette dernière avec vous deux, Vincent Warnier et Richard Martet. Là, c'était évidemment John Sutherland qu'on entendait avec Cheryl Mines ou Mills,
Mills,
qui chantait lui un la aigu.
Lui un la aigu.
Il y a des barytons qui l'ont, le la aigu. Hein. On dit qu'il faut une note de plus, de toute façon. Hein. Il vaut mieux avoir un la pour avoir un bon sol, etc. Ouais. Mais ça, c'était un exemple. Je vous propose, puisqu'on parle beaucoup du Brésil en ce moment, ce qui m'agace un peu parce que je ne suis pas un fervent admirateur du football, et le football est partout, notamment à la télévision. Mais Victoria Mulova, la violoniste bien connue, qui est une extraordinaire musicienne, a eu l'idée de faire un disque qui est sorti, il faut le dire, au moment de la Coupe du Monde. Je pense que ce n'est pas un hasard. Mais comme toujours avec la grande Victoria, eh bien, c'est intéressant. Alors, on la connaît, c'est quelqu'un qui a eu le concours Tchaïkovski, c'est ça, le concours Tchaïkovski,
oui,
absolument,
oui,
qui n'est pas que pour le piano, c'est pour ça que j'avais un doute pendant deux secondes, et qui s'est enfui de son pays, la Russie, enfin l'URSS plus exactement à l'époque, et qui a fait une carrière absolument phénoménale en enregistrant d'abord tous les grands concertos, les chevaux de bataille du répertoire, et puis qui s'est mis au violon baroque il y a quelques années, et qui a par exemple fait, à mon sens, le plus bel enregistrement des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, mais elle a un mari qui est un violoncelliste et qui joue dans un tout autre genre de musique et avec lequel elle fait de temps en temps des projets, et elle s'est rapprochée de lui pour celui-ci et de musiciens brésiliens. Voici un exemple de cet enregistrement tout à fait rafraîchissant par cette chaleur que nous connaissons ici à Paris. Aujourd'hui, nous sommes le quoi, le 3, le 4 ?
Le 3 juillet.
Le 3 juillet. Thank you. un disque qui s'appelle Stradivarius in Rio. Eh bien oui, Victoria Mulova a elle aussi succombé au charme du disque brésilien. Qui n'a pas fait son disque brésilien ? Mais c'est une, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est une fantastique musicienne, fantastique violoniste. Et tout ce qu'elle fait, c'est pas son premier projet crossover, comme on dit. Et chaque fois qu'elle s'échappe de ces territoires dits naturels, eh bien, c'est assez merveilleux. Elle est avec Matthew Barley, et non pas Barney, hein, ça n'a rien à voir. L'artiste plasticien un peu dérangé, là c'est un violoncelliste, Matthew Barley, et elle est aux côtés également de Paul Clarvis, de Luis Gelo et de Carioca Freitas. J'essaie de prendre l'accent
magnifique
de là-bas, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et là nous écoutions Linda Flor de Enrique Vogeler, qui est peut-être espagnol, dans ce cas-là ce serait plutôt Vogeler. Je pense.
Qui sait ?
Qui sait ? Voilà, vous êtes sur France Musique. On termine l'année, la saison du Matin des musiciens du jeudi avec Vincent Varnier et Richard Marté qui sont présents tous les deux aujourd'hui dans ce studio. Et c'est le tour de Vincent Varnier. On va faire quelque chose qui sera à la fois agréable et utile puisque c'est un disque que moi je ne connaissais pas, auquel vous avez participé, Vincent Varnier. On ne vous a pas beaucoup entendu dans toutes ces émissions. Vous êtes discret toujours. Alors, de temps en temps, c'est bien de vous entendre, parce que vous êtes quand même un bon musicien. Le Requiem de Durufli que vous avez enregistré avec un ensemble anglais sur une marque de disque dont je ne connaissais même pas le nom. Donc, c'est intéressant. Et ce soir, vous donnez un concert à Paris avec ce même Requiem de Durufli, c'est ça ?
Ce soir, à 20h, à Saint-Étienne-du-Mont.
C'est donc, la séquence promo.
Où effectivement, écoutez, c'est vraiment l'endroit pour jouer cette œuvre, hein, puisque vous savez que et Maurice Durufli a été l'organiste de Saint-Étienne-du-Mont, et c'est avec un chœur américain que nous allons jouer ce soir à 20h du Connecticut, la Hartford Choral Society.
Avec orchestre ou bien la version
d'orgue seul.
Version d'orgue
seul. Orgue seul, chœur et soliste.
Et là, c'est quelle version dans ce disque ?
Pareil, c'est la version d'orgue seul. Alors, c'est un disque qu'on ne trouve plus maintenant.
C'est la première, c'est la deuxième, c'est un arrangement, c'est un.
C'est effectivement une. Je dirais une recomposition de l'œuvre originale qui est pour orchestre,
bien sûr,
avec chœur et soliste. Et Durufli, une vingtaine d'années après, on a rédigé une version pour orgue seul. Voyant le succès de cette œuvre, étant l'organiste et surtout le compositeur qu'il était, il en a fait une version absolument convaincante, tout aussi belle que la version pour orchestre, très différente d'ailleurs sur le plan de la réalisation, heureusement. Et c'est une vraie partition d'orgue. Et j'avais fait ce disque en 99 à Saint-Étienne-du-Mont. Ce disque est introuvable maintenant avec un chœur anglais, Cambridge Voices, dirigé par Yann de Massini.
Oui.
Et comme toujours avec ces chœurs anglais, c'était un mélange de voix professionnelles et puis d'amateurs. Mais enfin, amateurs au sens anglais du terme, vous savez, ce sont des chanteurs qui ont un tel métier, une éducation musicale prise dans les meilleurs établissements, notamment des collèges anglais, Oxford, Trinity ou Cambridge
bien
et
sûr.
Autres. Et ça fait un ensemble absolument extraordinaire. Et puis surtout, j'avais le grand plaisir d'accompagner Gerald Finley dans cet extrait qui est l'offertoire du Requiem, qui chantait à l'époque Don Giovanni à l'Opéra de Paris et qui a vu la gentillesse, comme ça, entre deux répétitions, de monter à Saint-Étienne-du-Mont et en une ou deux prises, il a chanté donc cette hostias en plein milieu de l'offertoire du Requiem et c'est absolument saisissant.
L'offertoire, hostias, qui est quelque chose qu'on dit beaucoup en espagnol, mais pas tout à fait dans le même contexte. Du Requiem opus 9 de Maurice Duruflé, qui était interprété par le chœur des Cambridge Voices, avec des dames.
Absolument.
Comme dirait Nicolas Sarkozy, avec des dames, et qui n'est pas dans la tradition vraiment enfantine, c'est-à-dire les chœurs d'enfants, etc.
Voilà, on connaît des versions anglaises avec effectivement les chœurs des maîtrises.
Très séraphiques. Là, c'est chanté, y compris par Gerald Finley, qu'on a entendu là à l'instant dans le rôle du... Non, pas dans un rôle, mais enfin dans l'emploi de ce baryton,
oui.
assez dramatique. Hein.
Oui.
C'est pas comme dans le Fauré, hein, le Requiem de Fauré, qui est le même. On se souvient que le passage est beaucoup. Fauré voulait un chantre modeste, hein, une sorte de chantre d'église très simple. Là, on sent qu'il y a une volonté opératique.
De se démarquer, absolument.
C'était ce que voulait Duruflé ?
Oui. Ça, je le tiens de Marie-Madeleine Duruflé, parce que j'ai travaillé cette œuvre avec elle.
Sa veuve, donc son épouse.
Absolument, enfin, qui a été une interprète flamboyante, grande organiste de Duruflé, notamment, hein. Et elle me disait que Maurice Duruflé détestait ces versions angéliques, désincarnées de son Requiem. Au contraire, il chantait les passages les plus dramatiques qui sont contenus dans le texte de cet offertoire, parce que le texte est quand même terrible, y compris dans le Liberame, par exemple. Et il demandait des contrastes et un élan dramatique, presque visionnaire et tellurique dans le traitement du texte et dans l'interprétation. C'est pour ça qu'il préférait, et lui-même, quand il dirigeait cette œuvre, demandait de ses choristes et de ses solistes un engagement et surtout une grande variété de couleurs vocales.
Alors ça, c'est un disque qui est paru il y a quelques années, où vous avez rappelé Vincent Varnier, qui était à l'orgue de ce disque, que c'est paru en 99, c'est ça ? Vous l'avez enregistré en 99 ?
On l'a enregistré en 99, en mars 99.
Pour un label un peu inconnu, Herald, donc c'est un peu une pépite. Eh bien, c'est aussi l'esprit de cette émission. Je rappelle donc, vous donnez ce soir à l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, à 20h.
À 20h.
Ce même Requiem de Duruflé, dans cette version avec orgue, avec un chœur américain. Donc les amateurs peuvent y courir. C'est payant, c'est gratuit ?
C'est en entrée payante.
Bon,
c'est raisonnable.
Il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. Mais enfin, je demande parce que parfois les concerts dans les églises sont entrée libre. On continue notre exploration de ce dernier matin des musiciens du jeudi de la saison 2013-2014. C'est le tour de Richard Martet. Alors là, pas d'opéra.
Non, pas d'opéra, du piano.
Ah.
Mais le même sentiment d'excitation. C'est des choses que je réécoute régulièrement, comme le duo Sutherland-Mitz. Parce que pour moi, dans la musique, il y a une part d'excitation que j'aime retrouver.
Mais oui.
Et là, je la trouve tout à fait. C'est donc, nous sommes en 1953 au Carnegie Hall de New York. Vladimir Horowitz est au piano avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par George Zell. Et il joue le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, le fameux concerto pour piano numéro 1. Et manifestement, pianiste et chef en répétition, on négocie un tempo extrêmement rapide. On s'en rend compte dans le premier mouvement. Puis dans le troisième mouvement, vous allez voir, il continue sur un tempo négocié, toujours très rapide. Et puis vers la fin du troisième mouvement, Horowitz, comme il aimait beaucoup le faire, profite de la cadence pour accélérer encore le tempo par rapport à celui négocié avec Zell. Il y a des chefs qui auraient renoncé et qui se seraient paumés. Vous allez entendre, il y a un bref instant de flottement où Zell, qui pourtant le connaissait sans doute très bien, est légèrement surpris. Et puis l'orchestre enchaîne, vous allez voir notamment les trompettes, sont impressionnantes pour suivre le tempo impulsé par Horowitz. Et du coup, ça fait la minute et demie finale du concerto. Et je pense la plus rapide, la plus frénétique, la plus démente, il n'y a pas d'autre terme, de toute la discographie du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski.
Et c'était en 1953.
1953, Horowitz n'a plus jamais joué ce concerto ensuite en public.
Thank you.
1953, Carnegie Hall, New York. La rencontre, j'allais dire, du chaud et du froid, qui donne forcément ce genre de résultat. Le chaud, c'est plutôt Vladimir Horowitz au piano. Le froid, c'est plutôt Georges Zell, enfin, je simplifie évidemment, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. Donc un live, on l'a entendu. Et effectivement, cette espèce d'embardée extraordinaire que fait
Horowitz
dans la péroraison qu'il prend deux fois plus vite que la plupart des autres.
Absolument. Hein,
et probablement qu'écrit, je n'ai pas vérifié dans la partition. Mais on discutait ce matin, Richard Marté, pour savoir ce qu'on allait finalement entendre au cours de cette émission. Et je vous ai dit que je ne connaissais pas cette chose. Donc, parce que vous pensiez que tout le monde savait ça, tout le monde connaissait cet enregistrement.
Bah, c'est probable. Le connaissait.
Oui, c'est probable que je sois le seul à ne pas le connaître. J'assume parfaitement. Et rien qu'à ce titre-là, je suis très content qu'on l'ait diffusé. Ça m'a permis de le découvrir. J'ai peut-être entendu ça il y a des années, j'ai oublié. Et ça a dû être réédité par pas mal de maisons, non ?
Oui. Là, c'est Music and Arts, je pense.
C'est Music and Arts. Voilà. Pas Lexa. Je ne sais pas si c'est la même chose. Enfin, bon, en tout cas, toutes les références sont évidemment sur le site internet de l'émission que Flora Sternadel remplit au fur et à mesure de nos élucubrations. Vous voulez dire quelque chose, Vincent Varnier ?
Oui, c'est tout simplement à propos de ce premier concerto de Tchaïkovski. Horowitz l'a joué en 1941 au même endroit, au Carnegie Hall de New York, mais avec Beau Papa, c'est-à-dire Arturo Toscanini, en concert,
oula,
version légendaire également, mais je pense que le seul qui arrivait à discipliner ce fauve qui était Horowitz dans les octaves finales,
c'était
Beau Papa, et c'est très intéressant de comparer les deux versions, parce qu'on a un Horowitz dompté par le regard incendiaire d'Arturo qui devait le fusiller s'il dérogeait à la règle de, ben justement, de la mise en place.
Oui, au texte, n'est-ce pas ? On continue, à qui le tour ?
Eh bien, je pense que nous allons pouvoir
parler.
C'est à vous,
Vincent. C'est pour voir si vous suivez.
Je suis tout à fait. Alors là, c'est une petite curiosité qui va vous amuser, je pense. C'est une sorte d'orgue rêvé sous la forme d'un quatuor de saxophone.
Oh bah dites donc. Alors vous avez entendu la dernière pour nous faire ça ?
Savez-vous...
j'adore le saxophone, j'adore les quatuors de saxophone.
Vous en connaissez certains, j'imagine...
Ah, il y a ce fameux... Ensemble Blind Man, belge, qui joue en mésotonique des polyphonies du 15e dans une somptueuse sonorité, donc j'adore ça.
Oui, oui. Et il y a beaucoup d'œuvres originales pour cette formation. Alors bien sûr, moi ça me rappelle beaucoup l'orgue, hein, quand même, quand c'est notamment traité par Alfred Desenclos.
Ah.
Et c'est une œuvre que j'aime infiniment, qui est bien connue des saxophonistes, mais j'aimerais vraiment vous la faire partager. C'est un quatuor donc français, Alfred Desenclos. C'est un compositeur né en 1911, je crois, qui est d'ailleurs le père de l'organiste bien connu, Frédéric Desenclos. C'est un Grand Prix de Rome, Alfred Desenclos, 1942. C'est un musicien de la tradition française, on va dire. C'est-à-dire qui s'attache aux formes classiques.
Qui a fait un requiem aussi, non ?
Qui a fait un beau requiem pour chœur et orgue.
Oui, oui, oui.
Beaucoup de musique vocale, c'est vrai. Sur le plan du langage, vous savez, c'est quelqu'un qui aime les formes traditionnelles, qui est à mi-chemin entre un langage tonal bien établi, mais aussi très coloré de modalités.
On s'en fiche si la musique est bien.
Et c'est à la fois à mi-chemin entre Debussy, Ravel, avec des couleurs de jazz, une musique pleine de fraîcheur. Et je trouve que ça commence bien le mois de juillet, de nous faire entendre un peu cette musique très détendue.
Bon, Vincent, je suis content de l'avoir entendu une fois.
Bah écoutez, tant mieux.
C'est pas gentil ce que je dis, je sais.
Vous n'avez pas envie de l'emmener sur votre île déserte, si j'ai bien compris.
Non, vraiment pas, non.
Vous êtes un peu dur.
Mais c'est rafraîchissant.
Mais oui, mais c'est cela, c'est une musique sans prétention.
C'est frais, c'est très frais, ça se boit, voilà, ça se boit sans soif, comme dirait, pour parodier une célèbre.
Et quel métier, quand même.
Quel métier, oui.
Il y a un vrai métier. Là, le contrepoint, l'harmonie très riche, bon. Les voix qui s'entremêlent, la fraîcheur de l'inspiration, tout ça dans un cadre formel bien établi. C'est de la belle musique française, comme on l'aime. Richard n'est pas convaincu non plus.
Un brillant exercice, j'appellerais ça.
C'est un peu, là, on est un peu, c'est un d'un côté, deux de l'autre. Hein.
Alors écoutez, pour demain, vous allez écouter tous les deux le quatuor de saxophone de Florent Schmitt.
Mais on n'a rien fait de mal.
Puis celui de Glazounov, et vous m'en ferez un compte rendu.
On n'a rien fait de mal.
Ben si, écoutez quand même.
Bon, c'est vrai,
mon cher
des Enclos.
On
a dit du mal, mais je l'ai déjà fait.
C'est vrai, de Dupré, une fois.
Dans certaines de nos émissions, je vous dis parfois du mal de certaines choses.
J'en ai pleuré toute la nuit.
Bon, allez, vous allez vous en remettre. Richard, on revient à votre répertoire de prédilection, même si là on va être dans des choses un peu connues, mais pourquoi avez-vous choisi le Barbier de Séville? Non, c'est pas ça.
Non.
Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai pas choisi le Barbier de Séville.
Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai choisi Turandot.
Ah, Turandot, mais oui, bah, c'est pareil. Enfin, une chose connue, je veux dire.
Voilà.
Parce que sûrement ce qu'on va y entendre.
Voilà. Alors,
est piquant.
Voilà, c'est piquant, c'est assez effrayant en même temps. Donc, c'est un disque de 1964, c'est Renata Tebaldi, la plus grande Liu des années 1950, merveilleuse chanteuse, idéale pour chanter Liu, qui en 1964 décide de tenter l'aventure de Turandot, la princesse, l'air seulement. En studio, pour les besoins d'un récital, c'est l'une des pires choses qu'elle ait jamais enregistrées, mais surtout ce qui est terrible. Bon, elle n'était plus à son zénith. Mais vous savez, Renaud, beaucoup de chanteurs ont enregistré des airs âgés. Pourquoi pas, la voix n'est plus ce qu'elle est, mais au moins c'était en général des airs faits pour eux.
Oui.
Là, elle ne pouvait pas chanter Turandot.
Et puis certains ont enregistré pour le studio des rôles trop lourds pour eux sur scène, mais qui chantaient superbement. Je pense à Margaret Price, chantant Isolde, par exemple.
Non, mais elle le chante magnifiquement en plus. Là, le problème, c'est que Tebaldi, même dans ses rêves, ne pouvait pas être Turandot, puisqu'il faut l'acido, jusqu'au contrut, ce qui était exactement sa plus mauvaise note. Elle s'est entêtée, elle a voulu l'enregistrer, ce qui est quand même un symbole chez les divas d'une espèce de... Callas n'a jamais fait ça, vous voyez, par exemple. Oui. Elle s'est lancée dans plein de choses au disque, mais elle pouvait le faire. Même Dalila, elle pouvait. Tebaldi a fait Dalila, j'ai réécouté ce matin, ça se tient, Dalila. Turandot, ça ne se tient pas. C'est la folie maximale pour moi, pour une chanteuse. C'est-à-dire vouloir à toute force démontrer qu'on peut faire quelque chose où les cordes vocales ne veulent pas suivre.
Bon, on écoute ça ?
Oui.
Thank you.
Bon.
Vous dites beaucoup bon après les extraits en ce moment.
Quand je dis bon, c'est en général que ça se passe, ça va pas. Bon, enfin, c'est un partout, là.
Hein. Oui.
Chacun son... Non, mais ça, vous...
Chacun son bêtisier.
Vous êtes bien d'accord, Richard Martet, que la Tebaldi, on l'a compris, n'était pas dans à son meilleur.
Mais c'est pas qu'elle n'est pas à son meilleur, elle n'aurait jamais...
Elle ne peut pas.
Mais elle est dans le déni.
Mais elle n'était pas entourée, elle n'avait pas un conseiller artistique.
Il y avait un producteur, je pense qu'elle devait elle-même s'entendre en cabine après ça. Elle l'a laissé sortir quand même, dès le départ.
Mais vous savez, il y a des musiciens, je pense à des chanteurs, vous avez beau leur dire que la justesse est une chose mathématique, c'est-à-dire il suffit de mettre un diapason ou de mettre un appareil de mesure, leur dire qu'ils chantent trop bas ou trop haut, ils vous diront toujours « mais pas du tout, pas du tout ». C'est vous qui entendez de travers. Ça existe. Alors, il y a aussi le déni, hein, il y a toutes ces choses-là.
Oui. L'autopersuasion.
L'autopersuasion, ma voix est toujours celle qu'elle a été, etc. etc.
Non, mais même 15 ans plus tôt, elle ne pouvait pas, même au Zénith, elle ne pouvait pas être Turandot. Mais c'est le déni qu'il y a chez beaucoup de chanteurs aussi. Il y a une part de déni chez eux. Hein. Ils s'entêtent, je suis Renata Tebaldi. Puis surtout, c'est quand même une merveilleuse chanteuse. Par ailleurs, c'est quand même pas pour rien une immense chanteuse, une des plus grandes du XXe siècle. Mais là, avec les cordes vocales qui refusent de suivre les ordres du cerveau.
Quoi. Voilà. Alors, un petit peu d'orgue. Et là, Vincent, je sens que je vais être plus enthousiaste qu'avec le quatuor de saxophone d'Alfred Desenclos, parce que c'est ces orgues américains de cinéma que j'adore, de théâtre.
Oui, mais j'ai tout de suite vu votre œil pétiller dès que je vous ai parlé de l'orgue de la salle de bal de la tour de Blackpool en Angleterre. Oui. Vous savez, donc cette ville du nord-ouest du Royaume-Uni, une station balnéaire. Hein. On aime y danser, on aimait y diffuser des films accompagnés par des organistes. Et effectivement, c'est un orgue américain fait par Wurlitzer, grande firme. 1929, on installe
un grand
instrument.
C'est ces qui ressemblent à des gâteaux d'anniversaire glacés de blanc.
Les consoles, ça, vous avez vu ça, les consoles en fer à cheval. Extrêmement tourné.
Avec des organistes qui mettent des paillettes, vous savez, des costumes à paillettes. Enfin, c'est un monde extraordinaire.
Bien sûr. La console sortant du sol sous les applaudissements du public. Oh, bah, très vite, vous savez, ces organistes ont arrêté d'accompagner les films muets parce qu'dès 1929, justement, le cinéma devient parlant. Mais c'était les entr'actes, c'était des musiques de concert, des musiques de danse et c'était des virtuoses extraordinaires. Et je sais que vous aviez beaucoup apprécié déjà cet organiste que je vous avais présenté il y a 2 ans, Nigel Ogden, qui n'est pas le titulaire du lieu, hein, de la salle de bal de Blackpool, mais qui est venu faire des albums absolument magnifiques autour notamment d'improvisation, autour de standards des années 20.
Alors, il y a plusieurs volumes, hein, parce que j'en ai acheté quelques-uns. Oui. Il y a les années 30, les années 40, les années 50, je suppose.
Oui,
enfin,
tout
il a
à fait
toute une anthologie comme ça, par décade, on peut dire, enfin par période.
Oui. Et ils utilisent les caractéristiques techniques de ces orgues qui sont très souvent à haute pression avec des jeux très puissants, des trémolos sur tous les plans sonores.
Beaucoup d'additifs comme les gâteaux d'anniversaire.
Voilà. Et de nouveau les accessoires. Hein, ah oui, mais tout à fait.
Additifs et accessoires, mais beaucoup de colorants aussi. Hein, parce que
vous savez, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Parfois, ça frise le mauvais goût. Mais en même temps, c'est fait avec tellement de talent et c'est des virtuoses absolument incroyables. J'en suis presque jaloux de leur technique d'organiste.
Eh oui, ça gigote bien. Écoutons « Say it with music ». Alors ça, c'est la découverte de Richard Martet.
Absolument.
Enfin, c'est apporté, bien sûr, par Vincent Varnier en face de vous, mais vous ne connaissiez pas ça.
Absolument.
Et là, vous adorez.
Ah, j'adore et je vais aller me l'acheter sur
vous
un...
Vous prenez trois barils de ça contre un baril de...
Je vais m'acheter ça en sortant du studio.
Si je vous ai bien
compris.
Je trouve
ça absolument génial.
Ouais.
C'est réjouissant, c'est extrêmement bien fait.
Oui.
C'est voilà, de l'entertainment au très bon sens du terme.
C'est-à-dire, c'est du mauvais goût très contrôlé. C'est du mauvais
pas
goût.
Ça de mauvais goût.
Non, mais c'est ce que la plupart des gens considéreraient comme étant
notamment
mauvais goût.
Le monde de l'orgue. Hein.
Mais c'est un mauvais goût d'un tel raffinement, tellement élégamment joué. Et oui. Il n'y a que comme ça que ce soit supportable et que ce soit acceptable, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, une collection vraiment intéressante dont les références seront inscrites sur... le site internet de l'émission, ainsi bien sûr que tous les autres disques que nous avons apportés pour cette dernière, qui est un petit peu plus libre, c'est le moins qu'on puisse dire, que les émissions que nous avons faites, notamment ensemble, avec mes deux partenaires principaux, exclusifs d'ailleurs cette année, en tant que partenaire, en tout cas pour l'émission, Richard Martet et Vincent Varnier. Je vous propose pour terminer, Rester au cinéma, un de ces concertos, j'adore ça, un de ces concertos que l'on trouve dans certains films célèbres. Et là, évidemment, c'est une musique d'Hitchcock composée par Miklos Rocha, le Spellbound Concerto. La musique pour le film La maison du docteur Edwards de Hitchcock, c'est le Spellbound Concerto qui date donc de 1945 de Miklos Rocha, Earl Wild, London Promenade Orchestra, dirigé par Charles Gerhardt. Pour terminer cette émission un peu folichonne avec mes deux amis que je remercie, Vincent Varnier et Richard Martet. Et je remercie aussi l'équipe, Annick Champagne, Frédéric Potry, Michael Fontanillas, Flora Sternadel qui m'a aidé à la préparer, et Géraldine Prutner qui a réalisé Bon été.